cet après-midi. Donc, nous commençons avec Jean-Luc Steinmetz. Alors, Jean-Luc Steinmetz a fait une entrée, on va dire, fracassante sur la scène vernienne l'année dernière avec la parution de l'édition Pléiade, qui marquait enfin l'entrée de Jules Verne dans la Pléiade, avec deux volumes dont il a signé l'introduction. Il est également connu beaucoup pour ses travaux sur la poésie du 19e siècle. Il a publié L'Autréamont dans la Pléiade, il a écrit un certain nombre de travaux sur Tristan Corbière, sur Arthur Rimbaud ou encore sur Baudelaire. Et cet après-midi, il a décidé de nous parler de la relation entre Hetzel et Baudelaire.
Alors, je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans ce lieu vernien par excellence. Et quand même, je prends quelques distances vis-à-vis de Verne, puisque j'ai choisi de vous parler des rapports d'Hetzel et de Baudelaire. Je suis au moins autant baudelairien, mallarméen et rimbaldien que vernien. Mais enfin, bon, ça fait partie de mon amour de la littérature, tout cela. Donc, Baudelaire, oui, je l'ai publié dans le livre de poche. Donc, si on veut aujourd'hui, dans le livre de poche, trouver le Spleen de Paris ou les Paradis artificiels, les écrits sur la littérature, eh bien, vous aurez l'édition que j'ai faite ces dernières années. Et j'appartiens aussi à l'année Baudelaire, que dirige Antoine Compagnon, qui est un ami, et l'année dernière, au Collège de France, d'ailleurs, j'ai fait une intervention lors de son séminaire, enfin, dans sa conférence hebdomadaire sur Baudelaire. Donc Baudelaire est toujours à mon horizon en tant que poète essentiel, méconnu et insupportable, bien sûr, très méconnu. Donc aujourd'hui, ce sera autant sur Baudelaire que sur Hetzel, et autant sur le flair d'Hetzel concernant Baudelaire que sur Hetzel en tant qu'éditeur, que je vais vous parler. Alors, comme il y a des questions de date, citations de lettres, etc., je ne vais pas me laisser aller à une improvisation qui doublerait la longueur de mon texte. Baudelaire, qui aurait pu jouir d'une fortune personnelle, s'en vit très vite écarté par sa mère et fut sur les instances de celle-ci pourvu d'un conseil judiciaire, maître Narcisse Ancel, notaire à Neuilly. Il endura cette situation toute sa vie, il la subit, mais il mit aussi un point d'honneur à assumer pleinement la fonction d'homme de lettres, dont il souligna la dignité particulière. De là, accepter plus que contester la nécessité de gagner sa vie par ses œuvres, ce qui explique par exemple et justifie son travail de traducteur, qui lui fit publier pas moins de 5 volumes chez Michel Lévy. Traduction de Pau, bien sûr. L'un de ses premiers articles, « Comment on paie ses dettes quand on a du génie », publié dans le Corsaire Satan de 1845, et signé Baudelaire Dufaïs, relate une anecdote concernant Balzac, réduit à vendre plusieurs fois le même article à différents journaux, pour en tirer le maximum de bénéfices. Un peu plus tard, ses conseils aux jeunes littérateurs, publiés par deux fois en 1846 et signé Baudelaire Dufaïs, s'attachent entre autres aux salaires qui reviennent aux hommes de lettres et à leurs créanciers, inévitable engeance qui les poursuit. Les relations de Baudelaire avec ses éditeurs sont connues. Elles ont fait l'objet, en ce qui concerne Michel Lévy, d'études remarquables sous la plume de Jean-Yves Mollier, qui était là ce matin, qui a débuté, qui a commencé la journée. Quoi qu'on n'ignore pas sa relation avec Hetzel, la relation de Baudelaire, je reviendrai aujourd'hui sur celle-ci en me préoccupant plus, à vrai dire, de l'œuvre, au sujet de laquelle Baudelaire entretint avec lui une petite correspondance. Hetzel avec Hachette, Charpentier, Lévy, Lacroix et quelques autres, régner sur le monde de l'édition. Il avait en outre le mérite d'être un auteur non négligeable, spécialisé certes dans une forme de littérature dite enfantine, qu'il dota de plus d'un titre appelé au plus grand succès. Dans des périodes de l'histoire particulièrement difficiles, il publia de grands écrivains tels que Dumas, Sand et Hugo, et ce sera lui qui, plus tard, fondera avec Jean Massé le magasin d'éducation et de récréation où s'imposera Jules Verne. Dès les débuts du Second Empire, il s'était exilé à Bruxelles. Il ne reviendra qu'après l'amnistie de 1859, après avoir gardé là-bas nombre de ses activités. Très au fait du monde littéraire, Baudelaire connaissait Hetzel de réputation. Il le fréquenta. Ils étaient suffisamment proches pour qu'il recommande à cet éditeur la cause du beau Guillaume de son ami Duranty, livre auquel il comptait donner une préface et qui fut publié par Hetzel en juin 1862. À partir de novembre de cette même année, Baudelaire ne peut plus compter sur le premier éditeur de ses Fleurs du Mal que vous connaissez, Poulet-Malassy, qui, sur la plainte de l'imprimeur Poupart d'Aville, venait d'être incarcéré dans la prison pour dettes de Clichy. Baudelaire se tourne donc vers d'autres personnes et décide de quitter la France pour la Belgique. Mais il mettra du temps avant de venir en Belgique, avant de prendre la décision finale. Son espoir est grand d'entrer là-bas en contact avec Lacroix et Verboeckhoven, qu'il pensait rencontrer à la suite de conférences qu'il prononcerait à Bruxelles ou ailleurs. Malheureusement, aucun contact ne s'établira entre les deux hommes. Baudelaire s'adresse donc à Hetzel, pour lequel il avait une grande estime. Si en juin 1862, il lui avait recommandé la cause du beau Guillaume de Duranty, en novembre 1862, il s'était entremis auprès du même Hetzel pour que celui-ci regarde avec obligeance un manuscrit du jeune Catulle Mendès, Les Amours frivoles. Sans connaître le volume, Baudelaire ne doute pas des qualités de l'auteur. Il a de l'esprit, du goût et souvent beaucoup de grâce. Ce volume, au titre médiocre, Les Amours frivoles, deviendra Philomela, livre lyrique, apprécié de toute la nouvelle génération. Hetzel ne tardera pas à le publier, illustré par Braquemont, celui qui avait orné d'un portrait en frontispice, le frontispice des Fleurs du Mal de 1861. Dans Philomela, on remarque un poème, Pantéléia, dédié à Baudelaire. Mendès, jeune poète parnassien plein d'entre-gens, avait créé en 1861 la revue fantaisiste, où pouvaient se lire 9 des 10 notices qui devaient prendre place plus tard dans l'Anthologie Crépée, et le 1er novembre, 9 poèmes en prose. Attentif à la nouveauté, sensible à l'état d'esprit de son siècle, ouvert à de multiples initiatives, Hetzel, en écrivain qu'il était, apprécie particulièrement la formule presque inédite du poème en prose tel que l'a montré Baudelaire. À Arsène Housset, directeur littéraire de la presse, il demande de publier dans ce grand quotidien populaire des poèmes en prose de Baudelaire. Et on se souvient que sous le titre de « Petits poèmes en prose » paraîtront effectivement dans ce lieu de grande diffusion 3 séries de textes, les 26 et 27 août et le 24 septembre 1862. Une 4e série restera sur épreuve. L'appréciation donnée par Hetzel à leur sujet dans la recommandation qu'il adresse à Housset pour les publier est l'une des plus clairvoyantes énoncées sur le moment. Elle est restée célèbre à juste titre. Donc ces 5 lignes que je vais vous lire d'Hetzel, c'est l'un des premiers jugements sur l'œuvre, enfin des premières estimations de l'œuvre en prose de Baudelaire, des poèmes en prose, et elle est tenue par tous les baudelairiens comme une estimation d'une grande clairvoyance. En témoigne par exemple le cas qu'en faisait mon maître, mon disparu maître, Claude Pichois, qui est l'auteur, comme vous le savez, de l'édition de la Pléiade de Baudelaire. Restée célèbre donc cette appréciation, car elle signale une ample prise de connaissance de l'œuvre en cours, et formule un jugement dont on peut encore estimer le bien fondé. Baudelaire est certainement le prosateur le plus original et le poète le plus personnel de ce temps. Il n'y a pas de journal qui puisse faire attendre cet étrange classique des choses qui ne sont pas classiques. Ça, c'est du Hetzel. La reconnaissance de l'originalité de Baudelaire ne surprend pas, mais cette originalité, loin d'être considérée comme une qualité, passait plutôt pour un défaut à cette époque, ce que Baudelaire lui-même, par ironie, avait souligné dans son poème en prose « Les vocations », où il utilise, il est vrai, un autre terme, celui d'incompris. Ce mot s'éclaire dans ses paradis artificiels lorsqu'il évoque celui que l'école romantique nommait l'homme incompris et que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original. Je cite Baudelaire. Sous la plume de Hetzel, original vaut comme un compliment. C'est assurément la prose des petits poèmes en prose qu'il tend à louer ici, son exactitude, son pouvoir de capter des scènes contemporaines, bientôt transformées en apologues ou en sorte de fables. Mais il tient aussi à lier cette originalité de la prose au tempérament poétique de Baudelaire, individu unique qui se distingue de la pensée commune et d'une littérature du tout venant, plate et sans nerfs. Grâce à lui, Baudelaire, pour l'une des premières fois, devient ce classique des choses qui ne sont pas classiques, un écrivain à part, placé sous le signe d'une catégorie nouvelle, l'étrange, cet étrange classique, l'étrange qui nous renvoie à Pau. Et traitant de sujets ignorés jusqu'alors, tout ce que refusait ou négligeait la belle poésie, celle des fleurs et non des fleurs du mal. Placer l'étrange près du classique, c'est risquer l'oxymore le plus fécond et définir déjà, par le plus frappant et le plus opportun, la place que Baudelaire occupe pour nous désormais. Hetzel, qui est un styliste, on le voit bien aux remarques constantes qu'il adresse à Jules Verne et à sa propre écriture, nette et expressive, perçoit avec évidence la qualité de l'expression baudelairienne, sa justesse, son rythme, ses différences d'intensité. En dehors de toute raison commerciale, c'est l'un de ses titres de gloire d'avoir ressenti et défini Baudelaire à propos d'un genre si neuf, le poème en prose, à une époque où ce poète était aussi ardemment décrié qu'admiré. En opposant du régime impérial, Hetzel voyait en outre dans la récente condamnation des fleurs du mal, la marque insupportable de l'autorité morale de Napoléon III et de ses choix esthétiques désastreux. Irrité de l'indifférence de l'éditeur Lacroix à son égard, et ne pouvant revenir à Poulet Malassis, premier éditeur et deuxième éditeur des fleurs du mal, édition de 1857 puis de 1861. Poulet-Malassis interdit de publication en France, qui bientôt va s'installer en Belgique. Baudelaire s'est donc adressé à Hetzel, qui occupait une place reconnue dans le monde de l'édition. Par contrat en date du 13 janvier 1863, il lui donne le droit de publier, à l'exclusion de tous autres, pour 5 ans, premièrement, les poèmes en prose. Deuxièmement, les fleurs du mal, alors qu'il avait déjà cédé à Malassi le 24 mai 1861, contrat renouvelé le 1er juillet 1862, l'exclusivité de ses œuvres. Donc sa conduite n'est pas tout à fait honnête vis-à-vis de Malassi, loin de là. Le même contrat, les poèmes en prose, les fleurs du mal, établi avec Hetzel, mentionne, ça c'est intéressant, aussi, le premier volume de nouvelles que M. Baudelaire se propose de faire, qu'il n'a jamais fait, et les autres volumes qu'il intitule provisoirement ou définitivement « Mon cœur mis à nu ». Voilà donc les termes du contrat. Je vous épargne d'autres formules plus compliquées, là c'est l'essentiel. Baudelaire reçoit alors 1200 francs en deux effets, l'un de 1000, l'autre de 200. Dans une lettre légèrement postérieure, datée du 20 mars 1863, Baudelaire nomme pour la première fois le spleen de Paris. La première fois que le mot spleen de Paris apparaît, c'est dans une lettre à Hetzel. C'est des plus petits poèmes en prose. Nomme pour la première fois le spleen de Paris, l'œuvre sur laquelle il travaille, et que jusqu'à maintenant il avait désigné lors de publications partielles en revue, soit comme poèmes nocturnes, soit comme petits poèmes en prose. Ce nouveau titre, le spleen de Paris, peut avoir été motivé par son exil volontaire en Belgique. Il peut également, en tant que génitif subjectif et non pas objectif, signifier le spleen que l'on éprouve à Paris même, et non pas le regret qu'en terre étrangère on aurait de la capitale. Spleen de Paris, vous voyez les deux sens qu'il peut y avoir. Dans le même courrier, Baudelaire assure qu'il attache une grande importance à ce livre, mais que, selon son habitude, il ne cesse de le retravailler. « Je le remanie et je le repétris », ce dernier verbe souligné. À prendre en compte ces derniers mots, il semblerait que l'ouvrage ait été déjà constitué dans sa totalité, mais sans doute n'en était-il rien. Les années suivantes, en effet, verront la naissance d'autres textes, des corrections nombreuses interviendront, et surtout une interrogation constante portant sur le plan d'ensemble, qui finalement, malgré une liste établie, restera inachevée, le nombre de textes prévus pouvant s'amplifier considérablement. Baudelaire allait jusqu'à dire dans une lettre 666, n'est-ce pas ? Qui, comme vous le savez peut-être, est le chiffre de la bête de l'Apocalypse. Dans la même lettre encore, oui, à Amiens, on doit voir peut-être ça quelque part. Dans la même lettre encore, toujours à Hetzel, c'est là l'importance de cette correspondance. Quand même. Baudelaire suggère à Hetzel d'en offrir quelques fragments à Bulloz qu'il publierait simultanément. Bulloz dirigeait la revue des Deux Mondes et Baudelaire pensait au gain présumable d'une pareille opération ou surcroît de réputation que lui attirerait cette illustre revue. Il se souvenait, qui sait, de son « Comment on paie ses dettes quand on a du génie » dont je vous ai parlé tout à l'heure, au début de commencement de mon intervention. Il sera coutumier de ce procédé qui consiste à placer plusieurs fois le même texte dans différents journaux ou revues pour en multiplier les bénéfices. La publication successive et par poignée, pour ainsi dire, de ses petits poèmes en prose montre assez qu'il suivit cette méthode en toute conscience, en présumant qu'entre de tels lieux de publication, notamment les périodiques, et ses petits poèmes en prose, il y avait une compatibilité remarquable, mieux, l'opportunité du support le mieux adapté, capable de produire à partir du quotidien, et dans un quotidien, la poésie qui revient à notre monde moderne, passager, hybride, orphelin de la beauté. Bulloz, cependant, ami de Georges Sand, que détestait Baudelaire, le diable en jupon. Baudelaire dit de Georges Sand, c'est le diable en jupon. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle refuse le péché originel. Bon, mais ça nous entraînerait du côté de Joseph de Maistre, et je ne vais pas faire un long développement, qui serait agréable à faire, du reste. Georges Sand, donc, alors, Bulloz, ami de Georges Sand, restera sourd aux propositions d'Hetzel, inspirées par Baudelaire. Avec une belle confiance en lui-même, Baudelaire affirme à son futur éditeur, toujours à la lettre, « Je puis vous garantir un livre singulier et facile à vendre. » Ces cinq derniers mots qu'il souligne prennent valeur de caractéristiques essentielles, rejoignant l'originalité, déjà signalée par Hetzel, et montrant de la part de Baudelaire le souci d'atteindre un public, un lectorat, qu'il entend former à de nouvelles sensations, à une nouvelle morale paradoxale. Baudelaire n'oublie pas qu'Hetzel est un commerçant, mais il ne le lui reproche pas, tout comme le Balzac d'Illusion perdue, qu'il admire, il tient compte, au contraire, des réalités économiques que suppose le métier d'écrivain. Quant à la singularité qu'il revendique, elle fait partie des qualités d'individualité toujours mises en avant par lui, qui se veut comme Poe, un homme singulier, je cite, donc, par le comportement et ici par la forme. Une singularité qui ne l'empêche pas toutefois de rencontrer le plus grand nombre, d'interpréter les foules et les comportements grégaires en analyste du temps présent. Une lettre du 8 octobre 1863 détaille l'ampleur du projet et montre en quoi il y est engagé. Vos deux volumes ne pourront vous être livrés que 10 mois après l'époque convenue. Il s'agit dans ce cas plus spécialement aussi de la nouvelle édition des Fleurs du Mal après la deuxième publiée en 1861 par Poulet-Malassis. Vous savez, quand on parle des Fleurs du Mal, on se réfère toujours à cette deuxième édition, mais cette deuxième édition est amputée des pièces condamnées. Et il y aura une troisième édition qui est la dernière, qui est posthume, qui est celle de 1869. Alors à cette époque-là, il a déjà l'idée de faire cette troisième édition. Comme il est indiqué, les Fleurs du Mal seront complètement prêtes. Là, c'est la prose de Baudelaire dans ses lettres. Les Fleurs du Mal seront complètement prêtes et les morceaux inédits classés à leur place. Baudelaire désigne ainsi le fameux exemplaire de la deuxième édition comportant des feuilles intercalaires qui n'a pas encore été retrouvé. Un exemplaire mythique, n'est-ce pas ? Voilà, cette lettre-là prouve qu'il a existé avec des feuilles intercalaires. Bref. Donc la troisième édition qu'on a faite après sa mort, c'est une édition qui a été faite par ses amis, mais qui ne correspondait pas nécessairement à celle-ci. Baudelaire désigne ainsi cet exemplaire. Il revenait donc à Hetzel de publier la troisième édition des Fleurs du Mal. Mais outre les promesses oubliées faites à Malassis, on sait les atermoiements qu'aime imposer Baudelaire lui-même. Quant au second ouvrage prévu dans le contrat, Le Spleen de Paris, il est décrit avec ses intéressantes précisions. Dans Le Spleen de Paris, il y aura 100 morceaux. Il en manque 30. J'ai pris le parti d'aller faire vos 30 morceaux à Honfleur. Le départ pour Honfleur était prévu pour le 16 octobre 1863, le retour pour le 30. On apprend par ce courrier que Baudelaire s'était donné structurellement un chiffre pour composer la série de ses poèmes en prose, et celui de 100, juste, rejoint, on le pense à l'instant, le nombre des pièces en vers des Fleurs du Mal dans la première édition de 1857. En effet, en première édition de 1857, il y a 100 poèmes. Ce n'est pas indiqué cependant qu'aux pièces de vers auraient correspondu systématiquement des morceaux en prose, malgré le titre choisi, qui, durant les dernières années, comportera l'intrigante précision pour faire pendant aux Fleurs du Mal. C'est comme ça que j'ai publié dans le livre de poche, d'ailleurs, à l'intérieur, pas sur la couverture, malgré ce que je souhaitais. Donc, le titre, Le Spleen de Paris, pour faire pendant aux Fleurs du Mal. Baudelaire, dans les dernières années de sa vie, répète chaque fois cette précision. Et vous voyez que ça n'a jamais été publié avec cette, cette précision. Mais là, pour la première fois, et dans cette lettre à Hetzel, et puis bien sûr lettre d'autres correspondants, il donne cette précision. Troublante, mais qui est égarante aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'à chaque poème des Fleurs du Mal correspond à un poème des Splines de Paris. Ce serait trop beau, ce serait trop simple, et ça ne tient pas à l'analyse. Mais il faut tenir compte, en tout cas, de cette précision. En réalité, le Spleen de Paris... Non, alors, à propos de ça, oui, 30 nouveaux poèmes, ce qui laisserait, puisqu'il dit 100 poèmes, ce qui laisserait supposer que 70 auraient été rédigés ou mis en chantier à cette époque. Or, nous ne disposons aujourd'hui, quand on publie le Spleen de Paris, quand on le lit, que de 50 poèmes en prose. Le Spleen de Paris s'est fait de 50 poèmes. Il y en a pas 100. Ni 70, auxquels serait venu s'en ajouter 30. 50 poèmes en prose dans l'actuel Spleen de Paris, publié posthume, à quoi s'ajoutent des listes de projets et quelques brouillons de rédaction plus avancés pour certaines pièces. En réalité, le Spleen de Paris, dont je suis bien persuadé que vous le connaissez très peu, en réalité, le Spleen de Paris fut un livre en constante évolution, composé en trois parties qui n'apparaissent que sur les plans retrouvés. Et Baudelaire semble bien optimiste ou étonnamment confiant quant à son art et sa capacité de création lorsqu'il annonce 30 poèmes qui pourraient être rédigés durant un demi-mois à Honfleur, dans la maison joujou de sa mère. Tout juste de nos jours, peut-on en repérer deux qui auraient été composés dans ces conditions? C'est Le Confiteur de l'artiste et Le Port, qui témoignent effectivement d'une présence marine, maritime et d'un port. La même lettre annonce la décision qu'il a de partir le 1er novembre 1863 pour Bruxelles et son intention de lecturer là-bas, comme disait Paul Whistler, c'est-à-dire de donner des conférences, devant un auditoire qu'il espère fourni et qui, hélas, manquera à l'appel. Sachant Hetzel au courant des mœurs littéraires et des salles de lecture en ce pays, on vous a dit qu'Hetzel s'était établi pendant quelque temps en Belgique, puis après, 1859, il est venu en France tout en gardant des attaches en Belgique, Baudelaire n'hésite pas à lui demander conseil. Le commerce brouille souvent les rapports d'un auteur avec son éditeur. La dette qu'avait Baudelaire envers Poulet Malassi, auquel le liait la plus grande amitié, n'avait pas été levée et le poète se trouvait avoir revendu à Hetzel ses droits sur des ouvrages pour lesquels il avait déjà perçu une avance de la part de Coco Malperché. Coco Malperché, c'est la façon dont on désignait Poulet Malassi. Donc il disait, les gens parlaient de lui dans ces termes, avec ce sobriquet. Le 8 mai, en Belgique, alors, oui, procédé indélicat, n'est-ce pas, par rapport à son premier éditeur des Fleurs du Mal, même si une situation financière plutôt désastreuse l'expliquait, mais ne l'excusait pas. En Belgique, où l'insuccès l'avait accueilli, Baudelaire vivait des heures sombres. Son humeur quotidienne sans santé s'aggravait en haine universelle. Le 8 mai 1864, il écrit à Hetzel qu'il est fâché de voir son nom prostitué dans des livres pour lesquels il n'a aucun goût. Il désignait ainsi le Parnasse satirique du XIXe siècle, où Malassi avait recueilli les pièces condamnées en 1857. L'éditeur Alençonnet, Malassi donc, poursuivait maintenant en terre étrangère son entreprise et s'y employait avec zèle et inventivité. À cette occasion, il avait retrouvé Baudelaire, comme en témoigne la lettre que Malassi envoie le 9 juin 1864 à Charles Sineau, lettre peu rancuneuse, étant donné la conduite désinvolte de Baudelaire à son égard. Il a suffi que nous nous rencontrions pour que tout soit oublié. Mais il ajoute, à propos de Baudelaire, il persiste à rester à Bruxelles, non pas à cause de l'éditeur Lacroix, éditeur littérairement chimérique, mais à ce que je crois pour l'étonnement où le jette une population où il ne rencontre jamais, si ce n'est moi, visage de créancier. Néanmoins, en cette période, Baudelaire, déçu par Lacroix et Verboeckhoven, continue de travailler pour Hetzel et lui fait de fermes promesses. Je ne retournerai pas non plus à Paris sans avoir fait le dernier fragment du spleen de Paris. J'avais besoin de changer de place, j'étais devenu malade et enragé. De quoi ? Je n'en sais rien. Voilà donc en quels termes il raisonne à propos de cette œuvre en cours, comme s'il avait un programme qu'il devait remplir par fragments selon un plan fixé. La préface à Arsène Mousset, déjà publiée en 1862, parlait d'un petit ouvrage, d'une tortueuse fantaisie, et précisait « Hachez-la en nombreux fragments et vous verrez que chacun peut exister à part. » Reste que le terme de fragment réclamerait une longue analyse que je ne vais pas faire aujourd'hui, et que la lecture des petits poèmes en prose n'engage pas à y voir une mosaïque, pas plus que des textes autotéliques possiblement ajointés. Le sens du mot fragment, en l'occurrence, demeurera donc en attente pour Baudelaire, et qui plus est pour nous, et nous ne saurions le raccorder, même en passant, à l'esthétique de l'Athénéum des frères Schoeller, qui développe toute une esthétique du fragment. Et ça, c'est en Allemagne que ça se passe, à l'époque romantique. La relation entre Hetzel et Malassis, prévenue de la conduite de Baudelaire à son égard, évoluera avec, de part et d'autre, la meilleure compréhension souhaitable. Dans la contestation qu'il pouvait manquer d'avoir lieu entre eux, l'estime que tous deux portaient à leur auteur atténue le grave conflit que celui-ci, par inattention, négligence ou précipitation, aurait pu provoquer. Le 5 avril 1865, Baudelaire indique encore à Armand Fraisse que ses poèmes en prose paraîtront dans la seconde partie de cette année chez Hetzel, sous le titre « Le spleen de Paris pour faire pendant aux fleurs du mal ». Mais le mois suivant, le 5 juillet, il revient sur ses imprudents engagements. « Il me faut beaucoup de bravoure pour aller vous voir, quelque aimable que vous soyez, aboutit à Hetzel, qui du reste, sans difficulté, conclut l'affaire. Hetzel me dégage contre remboursement, signale Baudelaire le lendemain à son agent littéraire, Julien Lemaire. Hetzel, qui lui a rendu sa parole, mettra du temps, certes, à être remboursé, puisqu'il ne touchera son dû qu'après la mort du poète, le 14 mai 1868, Ancel, conseil judiciaire de Baudelaire, lui verse la somme de 600 francs, la moitié des 1200 francs encaissés par Baudelaire pour la vente de ses œuvres. Puis le 15 janvier 1872, 200 francs, restés 400 francs qu'il dut obtenir par la suite, mais pour le versement desquels ne subsiste pas de traces officielles ou officieuses. Malgré la situation épineuse où ils se trouvaient l'un vis-à-vis de l'autre, Baudelaire allait garder à Hetzel toute sa considération. De celui-là, il appréciait le comportement, la conscience professionnelle, le savoir, l'amour des lettres. Le 15 mars 1865, il lui adresse finalement ses histoires grotesques et sérieuses, publiées par Michel Lévy, traduction d'un certain nombre de contes de Poe. Dans ses Amoenitates Belgicae, autrement dit ses agréments de la Belgique, cela dit par antiphrase, il consigne l'opinion de M. Hetzel sur le faro, boisson qui l'intéresse en tant que révélatrice de la mentalité d'une nation et même élément propre à compléter ses observations d'ethnologie morale. Comme on le sait, le faro est une bière légèrement agrémentée de sucre et de lambic de coupage. Par esprit satirique, Baudelaire décrit son interlocuteur entendant ce mot. Je vis un peu d'horreur sur sa mine barbue. Il écrit ça en Alexandre Baudelaire. Et recueille avec soin sa réponse à la question « Qu'est-ce que le faro ?» c'est de la bière deux fois bue, à laquelle il donne une conclusion en forme d'apologue. Je compris que c'était une manière fine de me dire « pharo synonyme d'urine », bière deux fois bue. On n'engagera pas plus avant un débat sur ce breuvage qui risquerait de mettre à mal des accords franco-belges, peut-être encore problématiques. Hetzel, en cette petite scène, est montré comme un homme d'esprit, peu sensible aux délices d'outre-Meuse, en quoi il s'entendait avec Baudelaire, fort partial en ce domaine. De Hetzel et de Baudelaire, on ne saurait dire beaucoup plus présentement. En tout état de cause, ce ne fut pas une histoire d'amitié, mais de réciprocité légèrement intéressée, qu'on ne peut en aucun cas réduire à des préoccupations d'ordre mercantile. Hetzel a pris la parfaite mesure de l'intelligence et du génie de son auteur en puissance. Le caractère hors du commun de Baudelaire, loin de l'effrayer, l'a séduit. En excellent éditeur, en explorateur, en pionnier, il a estimé la valeur morale et commerciale des Fleurs du Mal et surtout du Spleen. Baudelaire, s'engageant avec lui, avec une certaine imprudence, certes, signifiait quelle confiance il lui témoignait, quitte à bientôt le décevoir. On aurait aimé que, de son vivant, parut le Spleen de Paris à l'enseigne de Hetzel, l'auteur de Maroussia, l'adaptateur des Quatre filles du docteur March, etc. Mais Baudelaire, incertain quant à son dernier livre, qui témoignait d'une expérience nouvelle, a cédé à une forme de procrastination, de remise en l'ordre, qui lui était habituelle, et l'ouvrage allait paraître posthume, de composition incertaine, inachevée. Hetzel, dans la vie de Baudelaire, aura signifié un havre jamais vraiment atteint, mais aussi un homme par-dessus tout estimable, qui s'entendait aux choses de la littérature et savait de quel mirage et de quelle volonté contredite elle procède. Je vous remercie pour votre attention.